Il est 18h au studio Kalangou. Monsieur Dame, bonsoir et bienvenue dans ce journal au micro Nafissa Dabsirfo. À la une de ce journal, le festival de l'Aïr qui s'ouvre à Iférouane. Une délégation des autorités de la ville d'Agadez en partance pour les festivités a été la cible d'une attaque par des hommes armés. Une victime témoigne dans ce journal. 7000 francs CFA, c'est le prix du mètre carré proposé par l'État nigérien pour dédommager les propriétaires terriens du site Gorobanda à Niamey. Détail dans quelques instants. En partie magazine de cette édition, nous parlerons des procédures et conditions d'expropriation des espaces ou des terres selon la loi avec les explications du constitutionnaliste Boubacar Hassan. Une délégation du président du conseil régional d'Agadez en partance pour le festival de l'Aïr qui souffre aujourd'hui à Iférouane, victime d'une attaque hier aux environs de 20h à quelques kilomètres de l'entrée de Gougaram. Les hommes armés non identifiés ont dévalisé la délégation avant de s'évanouir dans la nature. Rissa Kate, conseiller technique du président du conseil régional, une victime témoigne au micro d'Anissé Karim.
Arrivé à 3 km à la descente, nous avons été accueillis par des rafales. Nous a intimé de nous arrêter, on s'est arrêté. On pensait que c'est l'armée nigérienne. Après, ils nous ont dit de nous coucher. On était 11 personnes, des cadres, il y avait des femmes, il y avait des jeunes. Après, ils nous ont amenés dans un autre couloir. On est resté là, ils sont partis. Depuis tout ce qu'on a levé, ils ont pris un touraya, le portable, les valises, les couvertures. Bref, ils ont tout pris. Après, il y a eu l'intervention de l'armée qui est venue nous secourir. Après plusieurs échanges de tirs, les autres ont détalé et on nous a récupérés. Mais malheureusement, le véhicule du vice-président a eu des balles sur les radiateurs. C'est le seul accident qu'on a eu. Personne n'a été blessé, personne n'est mort. Il paraîtrait qu'on a récupéré les effets d'après les dernières informations, sauf le touraya du président.
Plusieurs propriétaires terriens du site de Gorobanda à Niamey étaient lundi devant le juge d'expropriation pour signer les ordonnances sur le prix proposé par l'État pour leur dédommagement. Le prix du mètre carré est fixé à 7000 francs CFA. Nouradine Housseini, délégué des expropriés, espère qu'après cette signature, le paiement ne prendra pas beaucoup de temps. Il est au micro d'Alassane Kouzi Mahamadou.
Lundi, on a été à la justice. Ceux qui se sont absentés au rendez-vous, ils ont été reçus par le juge. C'est tout simplement une procédure pour demander si la personne est d'accord ou pas. Donc tout le monde a signé favorable, qui sont d'accord avec le prix que l'État a donné, parce que c'est l'État qui a donné ce prix. En réalité, c'est par rapport au prix qu'on ne s'est pas compris, parce que c'est l'État qui a fixé le prix, il a dit à 7000 francs par mètre carré. Donc par rapport à tes nombres de mètres carrés que tu multiplies par 7000 francs. Donc en tant que délégué, on était retourné à la base pour se concerter entre nous. La plupart ont dit, on ne fait pas force face à l'État, vaut mieux céder. Donc on a accepté. Tous ceux que j'ai à connaissance qui sont sur ma liste quand même, ont signé. Donc on espère qu'après la signature, ça ne va pas prendre encore beaucoup de temps parce que ça fait à peu près 6 ans de cela pour encore pénaliser la population et surtout une population vulnérable parce que la plupart, c'est des gens qui ni là où dormir, ni là où vivre. Ils sont actuellement sur les sites.
En bref, ce matin à Niamey, des ministres de l'Environnement des pays membres du Sahel en prélude au sommet des chefs d'État lundi 25 février. Au centre de cette rencontre, les questions liées à l'environnement qui constituent aujourd'hui l'un des enjeux majeurs de la planète. Le ministre nigérien de l'Environnement, Al-Mustapha Garba, a relevé que la contribution de l'Afrique au réchauffement planétaire est marginale. Elle est estimée à environ 3,3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, même si paradoxalement, le continent africain est le premier à subir les plus lourdes conséquences de ce réchauffement, rapporte le journal Sahel dimanche. Le Niger célèbre ce jour 22 février la journée mondiale du scoutisme. Le scoutisme, c'est ce mouvement créé en 1907 par Robert Baden-Powell, lieutenant britannique dont le but est de faire grandir les jeunes en leur faisant découvrir la nature, la vie en communauté et en leur transmettant des valeurs universelles de respect, de partage et de dépassement de soi. À Maradi, plus de 500 jeunes ont adhéré à ce mouvement selon le commissaire régional d'Ambaba au micro de Mohamed Maman.
Ici à Maradi, nous avons environ un effectif de 500 jeunes scouts actuellement et nous sommes en train de collaborer avec les établissements scolaires afin de sélectionner les meilleurs élèves et de les intégrer dans le mouvement. On a actuellement environ 16 groupes. Nous avons 17 environ groupes dans la ville de Maradi et les autres groupes sont dans le monde rural. Nous avons vraiment un programme efficace qui inculque aux jeunes des valeurs morales, des valeurs de civisme. Donc c'est surtout ça, comment rendre ces jeunes utiles, actifs et heureux au sein de leur communauté.
Lancé le 11 décembre 2018, l'exposition des monuments de Zender dénommée Zender 1900 se poursuit jusqu'au 28 février prochain. Pour l'heure, ce sont plus de 25 000 personnes qui ont visité ces expositions visibles au Centre culturel franco-nigérien et à l'esplanade du Sultanat du Damagaram. Le maire du 3e arrondissement communal de Zender, Lamine Issa, explique au micro de Mustapha Mamansani.
Nous avons réussi à avoir presque 25 000 visiteurs et au Sultanat et au CCFN. Ce n'est pas fini, c'est jusqu'au 28 février. Les intempéries, principalement le vent, a fait en sorte qu'on a levé ça du Sultanat. Mais l'exposition est bien visible au CCFN. Cette exposition avait comme titre Zender 1900. Quatre chercheurs vont venir en fin mars, plus moi. C'est des manuscrits très anciens, des centaines d'années qui sont vraiment exposés, qui risqueraient vraiment de partir comme ça. C'est pas très très bien entretenu et c'est pour cela que nous allons travailler dans ce sens avec deux chercheurs de l'IRCH et un chercheur qui va venir d'Allemagne, plus Dr Camille.
Le Centre national de la cinématographie du Niger, CNCN, en collaboration avec le ministère de la Renaissance culturelle, ont organisé mardi à Niamey un festival en hommage au premier lauréat du FESPACO, Omar Ouganda, l'un des pionniers du cinéma nigérien au centre culturel qui porte son nom. Une occasion, selon le directeur du CNCN, de présenter les films qui vont défendre les couleurs du Niger au FESPACO qui s'ouvre demain à Ouagadougou. Sani Magori au micro de Diallo Maria Makenda.
Nous avons jugé très utile, en tout cas, de présenter les films nigériens qui sont en sélection officielle au FESPACO, donc aux Nigériens, et en plus saisir l'opportunité pour rendre hommage à Omar Ouganda. Omar Ouganda a été en 72 le premier étalon des Yenega. Donc nous allons présenter, en tout cas, les artistes qui épousent notre idée, et après nous allons présenter le film de Omar Ouganda, Kabaskabo, et enfin on finira par Oiseau Polygame. Et il a été le premier lauréat du FESPACO. C'est vrai, ça fait 50 ans depuis que Omar Ouganda a eu le prix, qu'on n'a pas eu le prix, mais chaque année, beaucoup de cinéastes déposent leurs films. Bon, ils sont dans toutes les catégories. Aujourd'hui, là où ça ne va pas, c'est du côté de la fiction. Et c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais du côté documentaire, aujourd'hui, il n'y a aucun pays africain qui nous dépasse.
Ancien international nigérien de football, il a porté les couleurs du stade malien de Bamako pendant plusieurs années. Lui, c'est Moussa Kamfideni, surnommé Djengoudi à Niamey à cause de son talent. Il est l'un des rares footballeurs nigériens dont le nom a marqué le football malien. Sexagénaire, l'ancien technicien supérieur des travaux publics vit une retraite paisible et distraite dans la capitale nigérienne. Sekou Gadjigo du studio Tamani l'a rencontré.
Beaucoup se souviennent encore de ses buts avec le stade malien de Bamako. Pourtant, ce sont les études qui amenèrent Moussa Kamfideni à Bamako dans les années 70 où il fréquente l'école centrale d'industrie, du commerce et d'administration ESICA.
J'avais un grand frère qui a déjà fait le Mali, qui a évolué au stade malien qui s'appelle Aboubakar Falke. En fait, c'est lui qui m'a dit en allant au Mali d'aller rencontrer les dirigeants du stade malien. J'ai joué tout le temps que je suis resté au Mali au stade malien. Club dans lequel je garde de très très bons souvenirs.
Ressassant ses souvenirs du bon vieux temps, Moussa Kamfideni, attaquant à l'époque, se souvient encore de ce but décisif qu'il a marqué lors d'un derby stade malien Djoliba AC de Bamako.
Le Djoliba étant la suprématie du football malien, ce jour-là on a eu à battre le Djoliba sur le score TCVS Réver de 1-0 et j'étais l'auteur du but. Vraiment j'étais très content parce que de par l'engouement des supporters qui sont venus me voir à la maison, vraiment j'étais épaté.
Retour dans son pays natal, le Niger, il y a de cela plus de 40 ans, Moussa Kamfideni dit rester en contact avec des anciens coéquipiers, mais également des adversaires au Mali.
J'ai toujours des amis qui m'appellent. En tout cas, dans la semaine, j'ai un appel du Mali, au moins une fois. Pour moi, le football, ça ne m'a pas permis d'avoir de l'argent, mais ça m'a permis de me faire beaucoup d'amis.
Actuellement à la retraite, Moussa Kamfideni est membre du comité exécutif de la FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football à Niamey. Une autre manière pour lui de vivre sa passion. Le football.
Ce reportage est réalisé par notre confrère Sekou Kadjigo du studio Tamani de Bamako qui séjourne au studio Kalangou dans le cadre de la collaboration entre les projets de la Fondation Hirondelle. Après une pause de quelques jours pour cause de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans, la Super League de football du Niger reprend ce week-end. Au programme, l'Espoir FC accueille l'Union sportive de la Gendarmerie nationale à Zender. Attawa, la jeunesse sportive de la localité, affronte l'AS Fan de Niamey. À Maradi, Jongorjo FC de la ville face à Akokana d'Arlita. L'USN Nigelec rencontre l'AS Garde nationale et l'AS Douane sera face à l'Urana FC d'Arlita. Ces deux rencontres auront lieu à Niamey.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
À présent, la partie magazine de cette édition, dans le cadre de l'exécution de certains travaux d'intérêt public, l'État est souvent amené à faire recours au domaine privé. Pour ce faire, il procède à des expropriations pour cause d'utilité publique. Néanmoins, il existe une procédure bien précise à suivre dans le cadre de l'expropriation. Notre reporter Alassane Kouzi Mahamadou s'est entretenu avec Dr Amadou Boubacar Hassan, juriste constitutionnaliste, sur la question.
Le droit à la propriété au Niger est garanti et protégé par l'article 28 de la Constitution du 25 novembre 2010. Et la loi sur l'expropriation prévoit une juste et préalable indemnisation des personnes qui sont concernées par l'expropriation. Le constitutionnaliste Dr Amadou Boubacar Hassan nous explique les conditions et les procédures à respecter dans le cadre d'une expropriation.
L'expropriation pour cause d'utilité publique est une opération consistant à contraindre une personne à céder son bien immobilier moyennant une juste et préalable indemnisation. Indemnisation pour cause d'utilité publique. Vous savez que les instruments juridiques internationaux, la Constitution en particulier, l'article 28, justement, protège la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique, donc dans les conditions déterminées par la loi. Cette loi existe au Niger depuis 1961, qui a fait l'objet des modifications en 2008. Cette loi de 1961 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire. Avant que la personne ne soit dépouillée, il y a des procédures à suivre. Il y a une phase administrative et une phase judiciaire.
Quoi consiste la phase administrative et judiciaire?
Administrative, justement, c'est un décret pris en conseil des ministres qui déclare d'utilité publique l'ouvrage qu'on voulait réaliser. On doit procéder à identifier pour savoir quelles sont les propriétés privées qui seront concernées par la construction de l'ouvrage pour qu'on s'assure que les personnes qui seront identifiées sont les vrais propriétaires. Et maintenant, la phase judiciaire, c'est le juge de l'expropriation se prononce puisqu'on dit qu'il faut une juste et préalable indemnisation. Dans un premier temps, cette indemnisation se fait à l'amiable entre l'État, donc l'expropriant, et la personne expropriée et pour que convenir justement du prix qu'il faut donner au mètre carré, si bien que depuis 1961, il a fallu la modification de 2008 pour que le décret d'application, donc un décret de 2009, vienne préciser un peu le prix du mètre carré par rapport à la question d'indemnisation. Donc c'est vraiment toute une procédure qu'à défaut c'est un règlement à l'amiable par rapport au montant de l'indemnité à donner. C'est en ce temps-là qu'on peut aller à la phase judiciaire pour justement faire un jugement.
Est-ce qu'il est normal qu'un ouvrage ou une infrastructure soit déjà construite sur un site alors que les expropriés n'aient pas rentré dans leurs droits?
Comme je l'ai dit, on l'appelle procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique après une juste et préalable indemnisation. C'est ce qu'ils disent les textes. Mais dans la pratique, l'État entre en possession du bien exproprié avant une totale indemnisation pour un certain nombre de raisons, peut-être des difficultés financières ou autres.
Ce journal est à présent terminé. Merci de votre attention. Retrouvez tout de suite Alassane Kouzi Mahamadou et nos confrères de la presse pour le forum de la presse. Bonne écoute.
Studio Kalangou.
Suivez les programmes du Studio Kalangou
à Niamey
sur la radio alternative 99.4 MHz, sur la radio Amfani 100 MHz, sur la radio Scout 90.9 MHz, sur la radio Challenge 96.6 MHz.
Studio Kalangou.